vous écoutez l'émission. Bonsoir, bonsoir à tous. Petit problème technique aujourd'hui, mais nous allons y arriver. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la forêt des possibles. Nous sommes le mercredi 19 février en direct de 19h à 20h et vous pouvez retrouver dès demain cette émission en rediffusion de 9h à 10h sur radiogalère.org et sur Spotify. Que se passe-t-il dans cette belle forêt ? Saison après saison, vous le savez, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons ensemble les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine. Cette forêt qui pousse, qui donne du fruit et qui montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la forêt des possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre. Du moi au nous et du nous au tout dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, semaine après semaine, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Mathieu Cheminal et aujourd'hui je suis accompagné en régie de Claire et Marin.
Bonsoir à toutes et tous, et la magie du direct fait que vous avez probablement entendu les petits réglages de début sur le micro, ça fait partie du charme de Radio Galère. Bienvenue.
Bonsoir Mathieu, désolé pour ce début un peu compliqué, mais on est prêts et prêtes pour cette belle émission.
Bonsoir à vous et merci d'être en régie, nous sommes en live et c'est le jeu du direct. Et en plateau, je suis aujourd'hui avec Elissa et Jeanne.
Bonsoir à tous, salut.
Et nous avons la chance de recevoir ce soir Cerise Stenner. Bonsoir Cerise.
Bonsoir.
Donc Cerise, tu es présidente fondatrice du mouvement Les Fabricoleuses. Les Fabricoleuses qui est un réseau associatif, inclusif et un incubateur dédié à la féminisation du secteur de la construction, du bâtiment et de la décoration, donc du BTP.
Absolument.
Et donc c'est, comme on le comprend de son nom, Les Fabricoleuses, un mouvement national qui est engagé pour l'égalité des genres dans le BTP.
Oui.
Alors Cerise, avant de nous parler de ton projet, on va s'intéresser à toi, parce qu'on aime bien, nous, à la Forêt des Possibles, comprendre un petit peu la trajectoire des porteurs de projets écologiques et sociaux qu'on reçoit. Donc comment ça va déjà ?
Ça va, je suis un peu fourbue, mais très enjouée d'être ici, parce que j'ai passé ma journée sur chantier.
Sur chantier. Et donc, quel est ton niveau d'énergie ?
Mon niveau d'énergie, pour de vrai, je pourrais dire moins 10, mais là, je vais le remonter à plus 10.
Eh bien, on arrivera donc à plus 10 et je n'ai pas de doute que la conversation, surtout sur la partie tout, va t'emmener tout droit au plus 10. On va s'intéresser donc à ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène, toi tu es donc peintre en bâtiment.
Oui.
Et qu'est-ce qui t'amène à devenir déjà peintre en bâtiment avant de fonder le mouvement Les Fabricoleuses ?
Alors c'était à l'aube de mes 40 ans. J'étais à Marseille, à l'époque j'étais bookeuse dans la musique et j'en avais un peu marre, je tournais en rond et c'était un dimanche. Je m'ennuyais terriblement et du coup j'ai eu cette idée un peu saugrenue de repeindre mon cafouche, donc le fameux placard. Et donc je suis allée acheter de la peinture chez Drogui, il me restait 46 euros sur mon compte nickel, je m'en souviens très bien, je me suis dit vaille que vaille, je vais dépenser cet argent pour ça. Et donc j'ai entamé la peinture, très mal, hein. Voilà, à l'époque je ne savais pas faire, et j'ai pris un gros kiff à repeindre ce cafouche, et du coup je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, après mes 3 ans d'archi d'intérieur à Paris, j'avais moins de 30 ans, je voulais être peintre en décor dans le cinéma ou scénographe. Ma maman est tombée malade, il a fallu que je m'occupe d'elle, donc j'ai laissé tomber cette reconversion. Et puis finalement, ça a fait écho quand j'ai peint ce cafouche. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je veux faire.
Et donc c'était tu avec quel âge à ce moment-là?
Quand j'ai commencé à devenir peintre.
À ta prise de conscience, ouais.
Je crois que j'avais 39 ans.
39
ans. Oui, c'est ça.
Ok. Et donc, tu te reconvertis. Qu'est-ce que tu fais pour te reconvertir? Tu fais une formation?
Eh bien, pas du tout, parce que moi, je n'ai pas de chance. Je ne rentre pas dans les cases. J'ai essayé, hein, en fait, d'appeler à droite à gauche, sauf que je n'avais pas 2 ans d'intermittence. Donc, en fait, zéro formation financière. Mais ce qui est très important, surtout, c'est que moi, je voulais être peintre en décor. Et on m'a proposé des formations pour être peintre en bâtiment. Et là, je me souviens très bien, la nana au téléphone, j'ai dit non mais attendez, moi je veux pas être peintre en bâtiment en fait, je veux être peintre décoratrice. Donc je ne veux plus aujourd'hui qu'aucune femme ait ce dénigrement des métiers du BTP, c'est très important aussi pour la suite. Donc en fait j'ai laissé tomber et j'ai appelé tous les copains du cinéma, les chefs peintres, les chefs déco pour faire des stages. Et ils m'ont tous dit, écoute, constat, voilà, désolé, on n'a pas le temps et puis on n'a plus de pognon aujourd'hui, en fait, pour prendre des stagiaires. Donc, fais du bâtiment, prépare tes murs et reviens nous voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir tous les copains du BTP et j'ai fait des stages. Et voilà, et puis en fait, je suis restée dans le bâtiment. J'ai été complètement piquée par ce métier. Et aujourd'hui, j'aime plus que tout faire du ratissage et de la reprise de mur et du ponçage et tout ça.
Et qu'est-ce qui t'a piqué alors?
Ah, mais non, mais ce qui est formidable dans le BTP, c'est... Bon, déjà, un environnement, moi, j'aime bien quand c'est un peu dur, quoi. Voilà.
Okay.
Mais c'est surtout qu'on arrive le matin, on s'installe, on commence à bosser... Alors souvent, on gratte, on détruit, etc. pour reconstruire après. Mais c'est qu'à la fin de la journée, on regarde ce qu'on a fait. Et en fait, c'est une satisfaction,
oui, immédiate.
C'est un truc de dingue. Et plus les jours passent, et plus on voit l'évolution. Et c'est hyper jouissif, en fait. Enfin, pour soi, quoi. On se dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça.
Et alors, dans cette reconversion professionnelle, est-ce que j'imagine que tu as rencontré des difficultés? C'est pas forcément commun, je sais pas, l'entourage, comment ça, quelles difficultés tu as rencontrées?
Alors, les difficultés, j'en ai eu quelques-unes, mais je dois dire, je suis pas vraiment un bon exemple. Parce que j'ai tendance, et c'est ce que je dis à chaque fois quand on me dit quel conseil tu donnes à une femme, je dis toujours faites, quitte à faire des bêtises, mais faites, ne restez pas dans l'inertie en fait. Et puis il y a aussi ce truc où on ferme la porte une fois, deux fois, trois fois, bah, aujourd'hui je prends mon escabeau, je monte au troisième et je défonce la fenêtre et je rentre. Donc en fait, autour de... Après j'ai évolué dans un milieu... artistique avec divers profils, etc. Et j'ai plein de copains aussi qui sont sur les chantiers, donc c'était pas très étonnant pour eux. Mais par exemple, j'étais sur un énorme chantier, un appart magnifique, tout à refaire, enfin, uniquement les peintures. Et c'est une boîte qui était venue faire les préparations, les travaux préparatoires, donc les enduits, le ratissage. Et mon client voulait une finition A en peinture. Finition A, c'est le top du top. Et donc, je fais la visite de chantier et je dis à mon client, écoute, je suis désolée, mais moi, je ne peins pas sur des murs qui sont préparés comme ça, parce que tu auras une finition B. Donc, il a fait venir l'entrepreneur, un ancien. Et donc, on regarde, on fait le tour du chantier et je lui dis, bon, bah là, désolé, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, la regarde, quand tu te mets... en lumière rasante, ça va pas, etc. Et là, le type me dit « Non, mais ça fait 30 ans que je fais ce métier !» Et je dis « Écoutez, ça fait 30 ans que vous le faites mal. » Et okay. Alors là, je t'explique pas la fureur du mec. Donc, il lève son poing, il commence à... Enfin, tu vois, il a vraiment envie de me déglinguer, quoi. Et là, du coup, j'ai dit « Écoutez, on peut arriver à la bagarre, hein, si vous voulez. Je vais chercher ma ponceuse, je vous la fous dans la tronche. Et voilà. Mais sinon, on peut éventuellement aussi se parler. » Donc voilà, donc j'ai réussi à adoucir un peu la situation, mais j'ai été face voilà, des égos comme ça.
Et ça, tu penses que c'est plutôt dû au fait que tu étais novice ou
Ah ben non, parce que je suis une nana et que je parle bien en plus, je pense. Bon voilà, c'est le... Oui, non, non, on va pas se leurrer. Hein. Je pense que s'il avait eu un mec qui avait 50 piges et qui faisait 1m80, en fait, ils auraient rigolé tous les deux. Ils aiment bien faire des blagues, les mecs, les anciens sur les chantiers.
Et de quoi es-tu le plus fier dans cette reconversion maintenant que tu prends un pas de recul et que tu vois un petit peu en arrière ?
Eh ben, je suis très fière d'avoir fait plein d'erreurs. Ouais. Je suis très fière d'avoir fait plein d'erreurs parce qu'en fait, je les ai corrigées. Je suis très fière aussi d'y être arrivée de manière autodidacte et d'avoir construit ma carrière professionnelle toute seule, entre guillemets, même si j'avais une marraine. Brigitte, je te salue, merci. Mais oui, non, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir déjà réussi une reconversion à 40 piges dans un domaine que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire, il y a 5 ans, je ne connaissais rien au BTP. J'étais personne, entre guillemets, dans le BTP. Personne ne me connaissait, je ne connaissais personne. Et là, aujourd'hui, déjà, j'aime mon métier. Je transmets mon métier. Et puis voilà, après je pourrais parler pendant des heures, hein. Faut m'arrêter. Parce
écoute,
que...
on t'écoute avec attention, donc tu parlais finalement de quand tu dis un conseil que tu donnerais aux femmes, c'est surtout d'oser, de passer à l'action, de ne pas rester en inertie, parce que c'est ce que tu observes.
Oui, mais c'est pas que pour les femmes, hein. C'est les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, les personnes qui pensent avoir un handicap, en fait, faut y aller, quoi. La vie est trop courte pour être petite, hein. Je l'ai tatouée ici. La vie est trop courte pour être petite. Et allez-y, foncez. Et l'échec, ça n'existe pas.
On sent que le niveau d'énergie est déjà un petit peu
monté. Oui, pardon.
Très bien, Cerise. Est-ce que tu peux nous parler ? Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont façonné un petit peu cette trajectoire et cette reconversion, des personnes qui se sont mises sur ton chemin et qui t'ont indiqué peut-être la direction ?
Alors, je pense essentiellement, donc je vous ai parlé de Brigitte, Brijou que j'appelais. Brigitte, c'était un peu ma marraine, et d'ailleurs je reproduis ça dans le réseau que j'ai fondé. Brigitte, c'était « Allô Brijou, j'ai mon mur qui cloque, comment je fais ? Allô Brijou, mon plafond, j'y arrive pas. Allô Brigitte, le mec il m'a mal parlé, comment je fais ? Et la facture, comment je fais ? Et le devis, combien je chiffre ? Au secours, au secours. » Et donc, voilà, cette femme m'a beaucoup aidée. Donc ça, c'est une première personne très importante.
Ressource.
Pour moi. Et la seconde personne, eh bien, figurez-vous que c'est un homme. Ce monsieur est plombier. Et je l'ai rencontré sur un chantier. Il était complètement ébobi de voir une femme peintre, bien que ce soit quand même le métier le plus représenté par les femmes. Mais voilà, un type super. De l'ancienne école, mais en fait, un jour, il me dit « Mais Cerise, je rêverais de former une plombière, mais je ne trouve aucune femme qui veut devenir plombière. Elles sont où les femmes qui veulent devenir plombière ?» Et donc, la journée se passe. La nuit, même si je dors, je réfléchis beaucoup. C'est ma seconde journée. Et je mets un pied par terre le matin et... En fait, je note un projet. Rassembler du savoir-faire au féminin, fabriquer des femmes. Nanana. Et en fait, grâce à ce monsieur, eh ben, voilà, j'ai lancé ce projet. J'ai mis 9 mois. Comme, voilà, j'ai enfanté des fabricoleuses
et du
grâce
coup,
à ce monsieur.
On retrouve des fabricoleuses, des femmes plombières, pardon, oui. Sur la plateforme des fabricoleuses.
Oui.
Mais bravo.
Merci.
Et donc, puisqu'on parle des fabricoleuses, on va passer à la partie nous. Donc, les fabricoleuses, c'est un mouvement qui a pris racine, qui est né le 8 mars 2021, dans tes premières réflexions, la Journée internationale des droits des femmes. Tu lances donc ce mouvement et tu lances plus tard la plateforme en 2023. Donc, on l'a un petit peu compris dans nos premiers échanges, mais est-ce que tu peux nous redonner la mission de ton mouvement ?
Alors, la mission première, c'est... de rendre visibles toutes les professionnelles du BTP en France. pour qu'on soit inspirante et donc plus nombreuses. Là, on parle de rôle modèle femme. Voilà. Plus on verra de femmes épanouies dans les métiers du BTP, plus on donnera des opportunités de changement de carrière à d'autres femmes. Après, je précise, on n'est pas un réseau dédié uniquement aux artisanes indépendantes. L'idée, c'est vraiment de rendre visibles autant les demandeuses d'emploi qualifiées qui cherchent un boulot, les apprentis, les indépendantes et mes anciennes copines d'intermittentes du spectacle déco, parce que je ne les oublie pas. Donc voilà, l'idée, c'est au travers de cette plateforme de nous rendre visibles. Et pardon, je digresse un peu, mais parce que j'ai rencontré pas mal de personnes, des hommes, des femmes, hein, partout en France, qui me disaient « Cerise, moi, je veux bien féminiser mes équipes, hein, mais elles sont où, en fait ? On ne les voit pas. » Les femmes, aujourd'hui, elles n'osent pas répondre aux embauches, elles n'osent pas envoyer un CV. En fait, elles ne se sentent pas légitimes.
Et pourquoi, du coup, elles n'osent pas le faire ?
Alors, pourquoi ? Bah, parce qu'il y a de l'auto-sabotage et de l'auto-censure, en fait. Voilà, le premier frein, c'est la femme. En fait, c'est nous. On se met des blocages qui sont complètement débiles. Parce qu'en fait, on a tout à fait notre place dans le BTP aujourd'hui.
On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, finalement. Mais du coup, tu étais sur les missions. Donc la première mission, c'est de visibiliser les femmes.
Voilà. Deuxième mission, c'est de, entre guillemets, fabriquer des femmes dans le BTP. C'est-à-dire que donc on essaye de monter tout un écosystème avec des centres de formation, des OF, des organismes de formation partenaires, des entreprises partenaires. Et l'idée, c'est que chaque demande qu'on reçoit de femmes qui veulent faire des stages, faire un apprentissage, etc., on les met en lien avec nos centres de formation entreprises partenaires. Et après, on a aussi des actions type, notamment dans la maison des fabricoleuses, notamment des petits déjeuners sur Rencontre un métier, où là, on rend visible une de nos adhérentes, on invite un centre de formation, une entreprise, et là, eh ben, on parle du métier de carreleuse, du métier de peintre, conductrice de travaux, voilà, tous les métiers y passent.
Et alors, tu parles de la maison des fabricoleuses, c'est un lieu physique ?
Oui, c'est un lieu physique, c'est la maison du bonheur du BTP. c'est la première maison des fabricoleuses, j'aimerais bien qu'il y en ait plein d'autres après en France. Mais voilà, c'est un lieu accueillant, bienveillant, protéiforme, c'est-à-dire que c'est un peu un genre de laboratoire, mais on a un espace de coworking à l'étage. On a aussi un espace de showroom, matériothèque, c'est un lieu de rencontre qui se situe dans le passage des Folies Bergères, qui a été réhabilité là, très récemment. Et on est 4 porteurs de projets à avoir été sélectionnés. Et donc, voilà, c'est un lieu où on peut aussi très bien prendre le café le matin. Si, par exemple, on a une femme dans le BTP ou qu'on a envie de... qu'on s'interroge et qu'on a peut-être envie de se former, et ben on vient chez nous, on boit un café, et puis on parle de son avenir, des possibilités. Voilà, c'est un lieu d'accueil, d'échange.
Et c'était important d'avoir un lieu physique, du coup, pour
ah bah pouvoir évidemment, rencontrer... Oui, oui, évidemment. Et en plus, ce lieu, il est à 80% en réemploi des matériaux. Tout le mobilier qu'on a, c'est que du don, avec des artisanes qui peuvent les retaper, pardon. Mais là, typiquement, il y a une menuisière fabricoleuse qui, on avait des chutes d'OSB. Et ben là, elle vient et elle fabrique des tablettes pour pouvoir accueillir un peu plus de femmes en coworking. En fait, on essaye toujours. Là, il y a un type hier qui nous a amené un miroir, mais de dingue, miroir magnifique. Donc, on essaye au maximum d'avoir 80% de réemploi des matériaux et des matériaux biosourcés.
Tu nous parles de ce lieu qui a l'air absolument super. Est-ce que tu peux nous préciser où il se trouve, dans quelle ville ?
Ah oui, bien sûr. Il est à Marseille.
D'accord.
Dans le passage des Folies Bergères.
Je ne connais pas du tout ce...
Je vais t'expliquer. On rentre par le 51 rue de la République. En fait, on connaît tous et toutes le passage de Lorette. Et il y a une immense coursive qui traverse ce passage de Lorette, qui a été délaissé pendant pas mal de temps. Et là, c'est la Soleam et la Métropole qui ont mis leurs moyens pour réhabiliter ce lieu. Et maintenant, venez nous voir, on est plusieurs commerçants. Et c'est un passage magnifique, il est magnifique.
Et du coup, là, nous, on a la chance que tu nous dises de venir et que tu nous présentes ce lieu et sa location géographique. Comment on fait si on est une femme qui est intéressée par le sujet et qui voudrait se former, par exemple? Comment on vous trouve?
Alors, le plus simple, ça reste encore la plateforme. Donc, c'est www.les-fabricoleuses.com. Il faut juste savoir, je précise, que nous sommes un réseau entièrement constitué de bénévoles, d'accord. Donc tout le monde donne de son temps, c'est-à-dire que on ne peut pas encore financer un poste, une fille qui serait là du lundi au vendredi pour accueillir tout le monde. Donc en fait, voilà, on dégage toutes et tous, parce qu'on est aussi des hommes bénévoles, du temps pour ouvrir cette maison des fabricoleuses notamment. Mais essentiellement, le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est ouvert. Mais le mieux pour nous contacter, c'est sur la plateforme. On a un formulaire de contact. Et en revanche, les mails, on y répond assez facilement. Et ensuite, on prend rendez-vous sur place. En tout cas, pour celles qui sont à Marseille. Enfin, je m'arrête là, hein, parce que sinon, je peux parler encore.
Et donc, un lieu, une plateforme, tu le dis. Et donc, oui. Qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme? Tu me disais tout à l'heure, nous ne sommes pas seulement une plateforme de travaux.
Non. Alors, il se passe plein de trucs. donc non, on n'est pas un travaux.com au féminin. C'est-à-dire que cette plateforme, vous pouvez retrouver autant des chefs d'entreprise, très important, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, des femmes chefs d'entreprise du BTP, des salariés, des demandeuses d'emploi qui sont déjà qualifiées, des indépendantes et des intermittentes d'éco. L'idée, c'est, je suis un particulier, je veux réaliser des travaux, je me connecte sur la plateforme, je cherche une plombière. Je suis une entreprise qui cherche à embaucher une femme, je vais sur la plateforme, je me connecte, je trouve. Je suis une boîte de prod, je veux une ensemblière, je vais sur la plateforme, etc. etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les femmes qui fabriquent le monde d'aujourd'hui et de demain.
Et alors, toutes ces femmes, est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur la féminisation du secteur du BTP
oui.
En termes de représentation
Oui. Alors, ce sont les derniers chiffres. Je crois que ça date de 2021. D'ailleurs, je lance un appel à l'Observatoire des métiers du BTP. J'aimerais bien qu'on réactualise les chiffres, s'il vous plaît. Et nous, on veut bien vous aider. Alors, on est 1,8% de femmes sur chantier, en poste ouvrière, électricienne, plombière, peintre, etc.
1,8.
1,8. Au niveau des femmes avec des postes cadres, y compris, on est à peine 13%. Donc, c'est peu. Alors, il y a eu une certaine augmentation hein, depuis quelques années, mais c'est encore léger. Et en PACA, pardon... on a reçu France Travail, on a reçu Linda qui est expert PACA, BTP pour France Travail la semaine dernière. Et alors je me souviens plus des chiffres exacts, mais en PACA, il y a 1700 femmes qualifiées BTP qui sont à la recherche d'un emploi, dont 700 qui cherchent à être embauchées en tant qu'ouvrières du BTP. C'est pas beaucoup, hein.
C'est pas énormément. C'est pas énorme, pardon, et surtout qu'on manque de main-d'œuvre dans le BTP.
Ah, ben carrément.
Donc,
carrément.
Où est le.
Carrément. Après, pardon, hein, je fais pas la langue de bois, mais typiquement, on voit souvent quand on va chercher du matos, quand on va acheter des fournitures, je vais pas citer où, mais voilà, c'est un peu le supermarché du BTP. Et ben malheureusement, on voit plein de types des migrants, des sans-papiers qui sont là, qui attendent qu'on leur file du taf, et on leur donne 30 balles la journée, ils sont contents. Mmh. Bon, voilà, c'est pas normal quoi. Mmh. Pourquoi ces mecs, et ben on les forme pas et qui rentrent dans la boucle normalement, et en fait ce truc c'est que les dirigeants ça les arrange quoi.
Mmh, ouais. Marin.
J'ai une question pour toi, Cerise.
Oui.
Tout à l'heure, tu disais quelqu'un qui voulait embaucher une femme.
Oui.
Et alors, la question qui m'est venue, c'est que je comprends très bien l'intérêt que vous avez à vous fédérer pour vous faire connaître. Mais est-ce que tu pourrais nous préciser aussi, si tu le sais, quelles peuvent être les intentions des personnes qui vont faire appel à vous ? Se dire pourquoi est-ce qu'ils voudraient travailler avec une femme et pas travailler juste avec une plombière. Voilà, donc en fait, de l'intention de la personne de l'autre côté qui fait appel à vos services particulièrement.
Alors, il y a des personnes qui veulent travailler avec des femmes, mais il y a encore des personnes qui ne veulent pas de femmes dans leurs équipes. On en est aussi encore là. Pourquoi une femme ? Après, c'est vraiment... ce sont des termes que j'ai entendus même de la part de mecs du BTP. C'est que effectivement, souvent, on met un peu au diapason. Ça calme les ferveurs sur chantier. Une femme, c'est souvent plus organisée. Après, on a ce truc, nous, de charge mentale depuis des années. Donc, on a peut-être une vision à 360 degrés. Au niveau de l'organisation, de même aussi nettoyer ses outils, placer ses outils, comment se comporter avec un client, ne pas s'énerver, réfléchir avant d'agir. Et puis il y a aussi ce truc de... on anticipe. Alors je ne dis pas que les hommes n'anticipent pas, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que nous, on a ce truc, voilà, on est nul pour conduire, mais en revanche, on est au top pour gérer une famille, gérer les courses, gérer les enfants, gérer les vacances, machin. Et sur un chantier, en fait, c'est pareil. Et donc, ça facilite... Sur un chantier, ça facilite souvent les choses. Mais il reste encore des personnes qui ne veulent pas de femmes sur un chantier... Parce que, attention, j'ai que des bonhommes, ça risque de foutre la merde, désolé hein, du terme, et c'est compliqué, parce qu'il va falloir, surtout sur les TP, bah, il faut une toilette et un vestiaire femme, voilà, toilette et un vestiaire femme, c'est 300 balles hors taxes sur un mois, enfin je veux dire, on peut très bien, bon, c'est, ça c'est des excuses à deux balles, quoi. Est-ce que j'ai répondu ?
Et alors en ce moment, il y a la tournée des fabricoleux, j'ai vu sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette tournée ?
Alors, je suis très fière de cette tournée. L'idée, c'est de se balader dans les grandes villes. Donc on a lancé la première date à Marseille, ville de naissance. Ensuite, on va à Paris le 6 mars, ensuite à Lyon, ensuite à Lille, à Bordeaux. On fait une petite date sur la route. Ça, c'est pour les copains de la musique. Avant, date sur la route, on s'arrête à Barjols, dans mon petit village, là où j'habite aujourd'hui. Bon, l'idée de cette tournée, c'est effectivement de faire connaître les fabricoleuses, d'agrandir notre réseau, de trouver de nouveaux partenaires. Et en fait, on construit cette tournée grâce à nos ambassadeurs et ambassadrices qui sont tous bénévoles. Et l'idée, c'est de faire connaître nos actions, de trouver aussi des financements sur nos actions. Mmh. Parce que les limites du bénévolat, bon, c'est, voilà, on les connaît tous. Mais c'est d'aller chercher, d'agrandir notre réseau et puis surtout aussi j'arrive plus à trouver les mots, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? D'agrandir notre réseau, de faire connaître le réseau et puis de fabriquer d'autres femmes dans le BTP, mais pas que à Marseille, et d'élargir un peu...
tout à fait, trouver des partenaires, voilà, des financements, parce qu'effectivement, en tant qu'association, du coup... C'est l'association. Le bénévolat a ses limites. Et effectivement, on est bien d'accord qu'il faut un modèle stable et durable et pérenne. Elissa.
Tu dis on fait le tour. Qui est-ce qui t'accompagne ?
Ah ! qui m'accompagne ? Eh bien, c'est surtout qu'on a des ambassadeurs et ambassadrices sur ces villes. Moi, je me déplace parce que bon, j'aime ça aussi en même temps. J'ai très envie de parler de ce réseau. Après, qui m'accompagne ? De Marseille, qui veut venir, vient. Mais après, sur Paris, là, on a Bérénice qui est formidable, qui est ambassadrice et qui a déjà réussi à trouver deux ambassadeurs. On fait ça à la Grande Coco, donc qui est un lieu quand même aussi assez branché économie sociale et solidaire. Et en fait, après, dans chaque ville, on s'entoure de personnes bénévoles sur place, des hommes du BTP, des femmes du BTP, des organismes de formation... de nos partenaires. Mais on, oui, parce que je ne suis pas toute seule. Enfin, les fabricoleuses, ce n'est pas moi. J'ai lancé le bébé et maintenant, et ben, en fait, on est plusieurs. On est 260 adhérents quand même en France. Hein.
Donc toi, tu tournes physiquement, tu te déplaces et tu es accueillie par plein d'autres membres du réseau.
Oui.
Et 260 adhérents...
dont 35% d'hommes. Je suis très fière.
Dont 35% d'hommes. Oui. Bravo. Et étant donné la jeunesse du mouvement, c'est un beau chiffre, 260 adhérents.
Et oui, c'est pas mal, mais là, on espère dépasser les 300. Il en reste 40.
Et on vous le souhaite. Et avant de passer à la troisième partie sur le tout, on va passer une petite musique que tu as choisie. Quelle est-elle ?
Oui. Alors, j'ai choisi « Woman » de Néné Cherry. Alors, effectivement, ça a bercé mon adolescence. Et c'est surtout que c'est une vraie ode à la femme. Parce que, voilà, on est puissante, on est pugnace. Souvent, on fait preuve d'abnégation. Et cette chanson, en fait, elle est... voilà, pour ceux qui parlent anglais, ou sinon, vous allez traduire les paroles, mais bon.
Une ode à la femme et une ode à toutes les femmes. On écoute Woman de Néné Cherry. À tout de suite sur Radio Galère.
Living.
Et on est de retour sur Radio Galère 88.4 FM. On est ensemble jusqu'à 20h et aujourd'hui, on est avec Cerise Tener qui a fondé le mouvement Les Fabricoleuses. Alors, on parlait de ce projet multifacette, hein, finalement, un lieu, une plateforme, une tournée. Et on va maintenant se demander, Cerise, tu nous disais donc ces métiers du BTP, ils sont historiquement perçus comme masculins. Tu nous as donné d'ailleurs quelques chiffres pour nous montrer qu'ils n'étaient pas seulement perçus, mais que c'était bien factuel. On observe quels freins tu observes aujourd'hui pour les femmes, quels sont les retours des femmes que tu accueilles dans cette fameuse maison et avec qui tu échanges et à qui tu donnes confiance, et comment on fait pour redonner confiance aux femmes?
Comment on fait pour redonner confiance aux femmes? Eh bien, plus on sera de femmes dans le BTP, et plus on se sentira légitime. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. Il y a un système de marrainage. Donc, moi, je suis fièrement marraine de deux peintres, Laurane et Sophie. Et d'ailleurs, Sophie, elle a dessiné, elle a performé lors de notre date à Marseille. Elle a dessiné l'arbre des fabricoleuses. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à l'émission.
Ouais. On postera.
Du marrainage, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi et que je me suis sentie intégrée et puis et professionnelle, en fait. Donc le marrainage, c'est très important. Et puis effectivement, c'est plus il y aura de femmes visibles dans le BTP et plus on se sentira légitime. Je pense que c'est vraiment la base.
Et tout à l'heure, tu parlais d'auto-sabotage. Et du coup, est-ce que pourquoi en fait le premier, selon toi, pourquoi les
pourquoi
femmes
l'auto-sabotage
en fait, sont leur
Parce pourquoi qu'en fait, depuis qu'on est toute petite, on nous dit. Alors déjà, il y a ce truc là de quand on est nul à l'école, et ben tu vas faire un CAP, ok. Et quand on est tout petit, en fait, t'es une fille, c'est rose, t'es un garçon, c'est bleu, toi, tu vas jouer avec les Barbie, t'es une fille, et toi, t'es un mec, tu vas jouer avec ton camion. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire que j'interviens dans le cadre de Power Minute le 8 mars, parler du BTP au tout petit.
Ah d'accord, ouais.
Voilà.
Sensibilisation des enfants.
Exactement, parce que déjà au collège c'est trop tard, hein. On a déjà des idées préconçues et c'est à 8 ans en fait, c'est là qu'il faut choper pour déconstruire un peu. Oui.
Moi je me demande un petit peu si tu es amenée, et toutes les femmes que vous accompagnez, toutes les femmes qui travaillent dans le BTP sont amenées, j'imagine, à rencontrer des hommes sur les chantiers, et quelle est la réaction de ces hommes, et est-ce que vous avez, dans ce système de marrainage, aussi des tips, des conseils à donner à ces femmes bricoleuses et entrepreneuses, comment gérer une situation où elles sont entourées de mecs qui sont pas forcément, j'en sais rien en fait, comment ils sont ces
mecs ?
Non,
mais après ça dépend des personnalités de chacune déjà. Moi je perds pas mon sang-froid, mais il y a peut-être d'autres femmes. J'ai une de mes filleules par exemple, elle est beaucoup plus timide, elle a beaucoup moins confiance en elle, en même temps moi j'ai pas du tout confiance en moi, mais je fais genre, mais ça dépend vraiment des personnalités. Et là je souhaite de tout cœur, je croise les doigts, mais on va peut-être avoir un partenaire avec un accompagnement psy. Justement pour accompagner ces femmes sur toutes ces problématiques. J'arrive sur chantier, en fait on me parle mal, mais comment je fais, comment je réagis, parce que si je gueule plus fort, ça va pas le faire. Si je me mets à pleurer, on va se moquer. Si je pars, je fuis. Bon, voilà, le truc c'est que nous, on est obligés à chaque fois de redoubler d'efforts pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Et pour... Après, il y a des petites attentions qui sont rigolotes, hein. Moi ça m'énerve, mais du genre, moi je suis peintre, je porte des sacs de 25 kilos d'enduit. Sur les chantiers, il y a les mecs qui disent « Non, mais attends, je vais te le porter. Non, mais en fait c'est bon, merci, c'est gentil, mais tu veux... Oh, » Bon, vas-y, monte. Donc les mecs, ils montent tous nos kilos d'enduit, etc. C'est mignon, mais ça m'agace. Je sais pas, je crois que je me suis complètement éloignée de la question.
Pas du tout. C'était un peu ça, ma question, oui, un peu les réactions des hommes et du coup, comment ces femmes sont outillées pour y faire face sur chantier. Oui, ça doit pas être une mince affaire.
Non, mais il faut prendre le contre-pied. Voilà, et avec le sourire, tout passe. Voilà.
Et alors, on observe aussi dans finalement dans le BTP, donc dans le secteur primaire, l'agriculture, dans les secteurs tertiaires que moi je connais mieux, la tech, les ingénieurs, une sous-représentation féminine, clairement, hein, dans les écoles de code, où, enfin, on pourrait en citer malheureusement beaucoup d'exemples. Donc on va le citer, hein, le patriarcat, ce récit dominant de notre société. Comment quel lien tu établis entre le patriarcat, les structures économiques dominantes, les inégalités dans le secteur? Pour toi, comment tu vois la chose? Est-ce que du coup c'est systémique?
Ah bah alors le patriarcat, oui, parlons-en. C'est un peu la base de toutes ces problématiques de féminisation des métiers. Et alors, pardon, hein, j'ai pris des petites notes.
Eh ben, je t'en prie.
Mais alors, je vais tout de même vous lire la définition du Larousse du patriarcat. Est-ce que j'ai mes lunettes? Non, même pas, je vois rien du tout. Alors, pardon, hein,
le direct.
Alors, forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Bon, je crois que ça parle à tout le monde. Mmh. C'est effectivement dans cette société patriarcale dans laquelle nous vivons depuis X centaines d'années. Il y a eu des essais bien avant les Simone Veil, etc., Olympe de Gouges, qui a quand même rédigé pendant la Révolution française, alors elle a carrément des couronnes, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà, donc ça date déjà mais donc ce patriarcat qui est en train d'être déconstruit, et il y a d'ailleurs des hommes qui s'engagent dans la lutte aussi de ce... je parlais tout à l'heure de Mathieu Paulin, que c'est un écrivain que j'adore, écrivain journaliste que j'adore, qui se dit féministe. Bon, on s'en sortira aussi parce qu'il y a des hommes qui s'engagent dans la féminisation des métiers et à déconstruire le patriarcat. Plus il y a de mecs qui iront chercher leurs enfants à l'école, qui feront les courses, qui organiseront les vacances. Je schématise un peu, hein, mais c'est ça, en fait. Quand on parle de parité ou d'égalité femmes-hommes, en fait, ça va dans les deux sens. Donc il y a aussi, mesdames, laissez les mecs, s'ils ont envie d'aller chercher les enfants, s'ils ont envie d'aller faire les courses, laissez-les faire, en fait. Parce que l'équilibre, il viendra que des deux parties.
Et alors, on parle de la place des hommes et du rôle des hommes dans la féminisation des métiers du BTP. Tu parles d'adelphité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept qui n'est pas forcément un concept que tous nos auditeurs et nos auditrices connaissent?
Alors, je suis complètement tombée amoureuse de ce mot, l'adelphité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on prend un shaker, on met la fraternité, la sororité, on shake, et on serre, et ça donne quoi? Ça donne l'adelphité. L'adelphité, c'est la solidarité entre humains, quel que soit son genre ou son appartenance sexuelle. Bref, on est des humains, qu'on soit un homme, une femme, en fait, on s'entraide. On s'aide, on s'écoute, on s'accompagne. Voilà.
Et alors, est-ce que c'est facile d'identifier des rôles modèles hommes qui portent la voix des femmes, ou en tout cas qui s'associent aux femmes en tant qu'adelphes?
Eh ben non, c'est pas facile. Mais nous, on en a quand même quelques-uns. Alors, on s'entoure d'hommes du BTP... qui sont assez curieux et qui, à chaque fois que je rencontre un mec qui bosse dans le BTP, je lui parle tout de suite des fabricoleuses et qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu pourrais devenir adhérent, oui, bah écoute, envoie-moi par email les infos, etc. Bon, une fois sur deux, ça n'aboutit pas, peut-être parce qu'ils ont peur
qu'on leur prenne leur place, alors que c'est pas du tout le cas. Mais il y a quand même des hommes qui s'engagent et qui disent fièrement, haut et fort, je suis une fabricoleuse.
Waouh.
C'est cool, ça.
Carrément.
Hein?
Tous et toutes fabricoleuses.
Ouais.
Et alors, du coup, pour remettre en perspective, du coup, si j'ai bien compris, la Delphité, c'est finalement ni la sororité ni la fraternité, c'est l'alliance des deux. Et en quoi, ma question, c'est ton avis par rapport à la sororité, en fait. En quoi il y a cette fameuse solidarité féminine, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas pour toi?
Alors, le terme existe. Après, je pense que je vais me faire caillasser parce que à chaque fois que je donne mon avis sur la sororité, ça passe pas tout le temps. En tout cas, moi, dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de femmes qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, des trucs un peu graves quand même. Et en tout cas, moi, dans ma vie personnelle, je n'ai pas vraiment ressenti de sororité. Déjà, toute petite à l'école, il y a de la jalousie, on se pique les copains, on parle derrière le dos. J'ai même bossé, hein, quand j'étais à Paris, j'ai bossé dans une agence d'attachés de presse où il n'y avait que des bonnes femmes, un seul mec. Et ben, je peux vous dire que c'est chaud quand même quand on n'est que entre filles. D'où l'intérêt de travailler ensemble en pleine mixité. Je pense que des hommes et que des femmes, ça doit être très compliqué. Mais bon, moi, il est très joli, hein, ce terme de sororité. Mais en tout cas, moi, dans ma vie privée, je n'ai pas vraiment ressenti. Alors, j'ai mes amis proches qui m'accompagnent, mais pas parce que ce sont des femmes. J'ai aussi des amis hommes proches qui m'accompagnent et qui m'aident. Mais disons que moi, dans un univers où il n'y a que des femmes, je ne me sens pas à l'aise.
Ben merci en tout cas de partager ton point de vue et ton expérience personnelle. Et rassure-toi, personne ici ne jettera des cailloux quand il s'agit d'une histoire personnelle. Alors, concernant la loi qui force un petit peu l'égalité professionnelle. On voit depuis quelques années l'index égalité homme-femme. Bon, mm-hmm. On en pense ce qu'on en veut quand on voit le résultat. Qui est la loi Rixin qui est apparue, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui
2021.
Impose 40% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce qu'en fait, il faut à tout prix légiférer, avec des quotas, avec des choses de ce type pour en fait accélérer l'égalité économique et professionnelle, parce qu'en fait, ça ne va pas assez vite.
Je crois que malheureusement, en France, on est obligé de passer par là. Vous vous souvenez, hein, Cotorep, voilà. Nous, en France, on aime bien, comme ça, avoir correspondre à des quotas. Je trouve que c'est assez dommage que justement, en tant qu'humain, on n'ait pas une prise de conscience et en se disant « j'ai pas besoin d'une loi pour embaucher des femmes, embaucher des personnes handicapées, embaucher ou faire travailler des migrants, accompagner des migrants. Bon, » Bref, moi, ça me dépasse. Mais des lois, oui. Après, encore faut-il qu'elles soient respectées. Et puis la loi Rixin, c'est bien mignon, mais on est sur que des cadres.
Complètement.
C'est que des postes cadres. Et c'est sur les entreprises de plus de 1000 salariés. C'est-à-dire que les toutes petites PME, les entreprises artisanales, on l'a dans l'os. C'est que, en fait, ces petites entreprises ou les indépendants, ils ne sont pas obligés d'embaucher des femmes.
Et ça représente quand même une majorité.
Mais carrément. Et si je peux partir un peu dans un autre sujet, où je sais même, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, j'ai rencontré des femmes formidables qui aujourd'hui sont des vrais rôles modèles femmes et des dirigeantes. Émilie Sédikian, qui est quand même CEO de Salesforce. Je l'ai rencontrée, cette meuf, elle est chamée. Et c'est
complètement.
Elle est, enfin, les métiers de la tech, c'est chaud, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et sur Made in Soft aussi, là, à Marseille, bon, on a des femmes aussi qui dirigent. Voilà. Donc, plus on aura de femmes dirigeantes à des hauts postes cadres, et ben, ça va un peu faire la balance. Et je sais même plus pourquoi je parlais de ça parce que je crois que j'avais tellement envie de parler d'elle.
Mais parce que on aime bien
systémique,
légiférer,
oui, légiférer,
c'est systémique,
oui.
Et que ça touche surtout les comités exécutifs, oui, des grandes entreprises.
Ah, et ça y est, je sais où je voulais en venir. C'est que plus on aura de femmes dirigeantes, plus ces femmes dirigeantes, elles voudront embaucher des femmes. Okay. Et pas que à des postes cadres. Et peut-être qu'un jour, eh ben, on aura des secrétaires hommes. Mmh. Imagine le kiff. T'appelles Salesforce et tu tombes sur un mec qui répond à un standardiste. Bon, voilà, ce serait bien quoi, qu'on ait un peu inversé la tendance. Enfin, inversé, non, pas inversé, mais qu'on ait plus de mixité partout.
Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on donne envie et possibilité à des jeunes filles de s'imaginer entrepreneuses, peintres et maçonnes.
Mais
parce
bien
qu'il
sûr.
Faut des rôles modèles,
oui.
Il faut pouvoir s'identifier à quelqu'un pour s'imaginer le faire.
Mais oui, mais de tout temps en fait. Quand on est petit ou petite, on a toujours des posters dans la chambre. Des chanteurs, des chanteuses qu'on idolâtre. Bon voilà, donc effectivement c'est hyper important.
Est-ce que toi, t'es pas un peu un rôle modèle aussi ?
J'aimerais.
Moi, je trouve que oui.
J'aimerais, oui, j'aimerais.
On publiera des posters de toi très bientôt.
Non.
On va passer l'heure avance à notre question surprise qu'on pose à tous nos invités. Et donc, cette question surprise, elle va t'inviter à te plonger. Alors, à chaque fois, on dit 2030, mais en fait, 2030, c'est tout bientôt. On va se plonger en 2040. Et je vais t'inviter, je vais vous inviter, vous, chères auditrices et chers auditeurs, et nous, en plateau, en régie, à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et vous avancez. Vos sens sont en éveil. Vous avancez dans la ville de Marseille. Nous sommes en 2040. Il fait beau, car à Marseille, il fait souvent beau. Et vous marchez dans la rue. Et vous êtes étonné, surpris. Vous êtes surpris parce que les années ont passé et l'un de vos rêves s'est réalisé pour cette ville que vous aimez tant. Visualisez ce rêve, sentez ce rêve, ça y est, on y est, enfin. Et ce rêve, ouvrez les yeux, quel est-il ?
Eh ben moi, je vois tout le monde réuni, les quartiers nord, les quartiers sud, le centre, les vieux, les jeunes, n'importe qui, enfin, tout le monde réuni. Aucun clivage, pas de dichotomie.
La fracture nord-sud qui a disparu.
Ouais.
Surtout dans cette ville.
Ça n'existe plus. Il y a des transports partout, on peut aller partout. Il y a du boulot pour tout le monde. Et on s'en fout de quelle appartenance sociale ou raciale. Voilà, on est tous heureux, on vit tous ensemble.
Ah oui, moi j'ai vu des femmes rémunérées à la hauteur des salaires de leurs homologues.
Ah ouais, bah oui aussi.
Moi j'ai vu des habitats hyper alternatifs construits par des enfants accompagnés par leurs grands-parents qui s'amusent à monter des palissades et faire des cabanes un peu partout sur des anciennes autoroutes.
Moi je vous ai tous regardé fermer les yeux, j'avoue, sur ce coup-là. Je vais plutôt écouter vos imaginaires.
Ça va, Trice. En régie, on a un retour ou on a vu quelque chose dans ce Marseille 2040 ?
Moi, j'ai vu une Marseille qui avait chaud et j'ai vu des fabricoleuses qui avaient adapté nos bâtiments, et des bâtiments tout blancs et qui s'inspirent de ce qui existe parfois plus dans les pays du Sud et qui ont fait remonter ça jusqu'à Marseille. Et sinon, j'ai aussi vu beaucoup d'amour.
Et pour ma part, je vois un peu toujours la même chose quand on me parle de Marseille à un horizon plus ou moins lointain. Je vois la Canebière végétalisée et silencieuse.
C'est vrai que Claire, elle voit toujours cette canne bière. on nous le souhaite collectivement.
Ouais. Déjà, elle est piétonne hein, maintenant.
Déjà, oui, tout à fait. C'est une grande avancée par rapport à la projection qu'on en faisait il y a 10 ou 20 ans. Quels sont les projets des fabricoleuses en 2025 enfin, c'est quoi les actus? Quels sont tes besoins des bénévoles, des financements? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, l'actu, c'est ça, hein, c'est la tournée en France. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos dates sur l'agenda sur lesfabricoleuses.com. Si vous êtes une entreprise qui fait beaucoup de bénéfices et que vous voulez défiscaliser, eh ben vous pouvez soutenir nos actions. Si vous êtes à la retraite ou que vous avez un petit peu de temps et que vous avez envie de nous aider, ben on cherche des bénévoles. Et puis si vous êtes quelqu'un qui était très 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 riche aussi, ben vous pouvez financer nos actions. bon, non, je plaisante un peu, mais pas trop. Mais non, c'est la tournée là qui est hyper importante. Et là, on est dans 5 grandes villes. Et France Travail nous demande par exemple est-ce que vous pouvez venir dans le Vaucluse? Mais oui, bien sûr. On nous a demandé à Strasbourg aussi. On nous a demandé un peu partout. Donc, on construit en fonction des demandes.
Eh bien écoute, on sera là pour suivre cette tournée et on te remercie d'être venu ce soir au micro de la Forêt des Possibles, Cerise Ténér, et surtout n'oubliez pas, liberté, égalité à Delphité. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Cerise.
Merci mille fois, c'était trop bien.
Et à très vite sur Radio Galère pour la Forêt des Possibles.